Chapitre 11. Au milieu de ces alternatives, il trouvait au ministère, sur sa table, la carte d'un monsieur venu déjà deux fois dans la matinée, disait l'huissier avec un certain respect de la nomenclature suivante. C. Gossin d'Armandie, président des subversionnistes de la vallée du Rhône, membre du comité central d'études et de vigilance, délégué départemental, etc., etc. L'oncle Césaire à Paris, le Fénat délégué, membre d'un comité de vigilance. Oh, sa stupeur durait encore quand l'oncle parut. Toujours brun comme une pomme de pin, ses yeux fous, son rire au coin des tempes, sa barbe du temps de la ligue, mais au lieu de l'éternelle veste de futaine à côtes, une redingote en drap neuf, bridant sur le ventre et donnant au petit bonhomme une majesté vraiment présidentielle. Ce qui l'amenait à Paris, l'achat d'une machine élévatoire pour l'immersion de ses nouvelles vignes. Il prononçait le mot « élévatoire » avec une conviction qui le grandissait à ses propres yeux, puis la commande de son buste que ses collègues lui demandaient pour orner la salle du conseil. « Tu as vu, » ajouta-t-il d'un air modeste, « ils m'ont nommé président. Mon idée de submersion bouleverse le midi, et dire que c'est moi le Fénat qui suis en train de sauver les vins de France. Il n'y a que des toqués, vois-tu. » Mais le but principal de son voyage, c'était la rupture avec Fanny. Comprenant que l'affaire traînait en longueur, il venait donner un coup de main. « Je m'y connais, tu penses, quand Courbevès a lâché la sienne pour se marier. » Et avant d'attaquer son histoire, il s'arrêta, et déboutonnant sa redingote, il en tira un petit portefeuille rondement tendu. Bon, d'abord, débarrasse-moi de ceci. Ben oui, l'argent, la libération du territoire. » Il se trompa au geste de son neveu et comprit qu'il refusait par discrétion. « Mais prends donc. C'est ma fierté de pouvoir rendre au fils un peu de ce que le père a fait pour moi. D'ailleurs, Divonne le veut ainsi. Elle est au courant de l'affaire. » « Et si contente que tu penses à te marier, secouer ton vieux crampon !» Dans la bouche de Césaire, après le service que sa maîtresse lui avait rendu, Jean trouva « vieux crampon » un peu injuste, et c'est avec une pointe d'amertume qu'il répondit « Non, reprenez votre portefeuille, mon oncle. Vous savez mieux que personne combien ces questions sont indifférentes à Fanny. » « Oui, c'était une bonne fille, » dit l'oncle en oraison funèbre. Et il ajouta, clignant sa patte d'oie, « Garde toujours l'argent. Avec les tentations de Paris, je l'aime mieux entre tes mains que dans les miennes. Et puis il en faut point pour les ruptures, comme pour les duels. » Il se leva là-dessus, déclarant qu'il mourait de faim et que cette grosse question se discuterait mieux la fourchette à la main en déjeunant. Toujours la légèreté gouailleuse du méridional a traité les affaires de femmes. Entre nous, petits, ils s'étaient attablés dans un restaurant de la rue de Bourgogne, et l'oncle s'épanouissait la serviette au menton, tandis que Jean grignotait du bout des dents l'estomac serré. « Je trouve que tu prends la chose trop au tragique. Je sais bien que le premier coup est dur, l'explication ennuyeuse. Mais si cela te coûte trop, ne dis rien. Fais comme Courbevès. Jusqu'au matin du mariage, la mordasse a tout ignoré. Et le soir, en sortant de chez sa future, il allait chercher la chanteuse à son beuglant et la reconduisait chez elle. » Tu me diras que c'est pas très régulier ni bien loyal non plus, mais quand on n'aime pas les scènes et qu'avec des jeunes femmes terribles comme Paola Morena, oh, il y avait près de 10 ans que ce grand beau garçon tremblait devant cette petite moricaude. Pour le décrochage, il fallait ruser, manœuvrer. Et voici comment il s'y était pris. La veille du mariage, le 15 août, le jour de la fête, Césaire proposa à la petite d'aller pêcher une friture dans l'Yvette. Courbevez devait venir les rejoindre pour dîner. Et l'on s'en retournerait, tous trois, le lendemain soir, quand Paris aurait évaporé son odeur de poussière, de carcasses de fusées et d'huiles à lampions. Ça va. Les voilà tous deux, étendus dans l'herbe, au bord de cette petite rivière qui frétille, et lui, entre ses berges basses, fait les prairies si vertes et les saules si feuillus. Après la pêche, le bain. Ce n'était pas la première fois qu'il leur arrivait de nager ensemble, Paola et lui en bons garçons, en camarades. Mais ce jour-là, cette petite mornasse, les bras, les jambes nues, son corps de moirabine fait au moule, que la mouillure du costume plaquait de partout, peut-être aussi l'idée que Courbevez lui avait donné carte blanche à la matine. Elle se retourna, le regarda dans les yeux durement. « Vous savez, Césaire n'y revenait plus. » Il n'insista pas, de peur de gâter son affaire, et se dit ben, « Ce sera pour après-dîner. » Très gai, le dîner sur le balcon en bois de l'auberge, entre les deux drapeaux que le patron avait arborés en l'honneur du 15 août. Il faisait chaud, les foins sentaient bon, et l'on entendait les tambours, les pétards, la musique de l'Orphéon qui courait les rues. « Est-il embêtant, ce Courbevez, de n'arriver que demain ?» disait la mornasse, qui s'étirait les bras avec un coup de champagne dans les yeux. « J'ai envie de m'amuser, moi, ce soir. » « Et moi, donc ?» Et il était venu s'appuyer à côté d'elle sur la rampe du balcon, encore brûlante du soleil de la journée, et sournoisement, en sondeur, il passait le bras autour de sa taille. « Oh, Paola, Paola !» Cette fois, au lieu de se fâcher, la chanteuse se mit à rire, mais si fort, de si bon cœur, qu'il finit par en faire autant. Même tentative repoussée de la même façon le soir, en rentrant de la fête où ils avaient dansé, tiré des macarons. Et comme leurs chambres étaient voisines, elle lui chantait à travers la cloison « T'es trop petit, t'es trop petit !» avec toutes sortes de comparaisons désobligeantes entre lui et Courbevez. Il se tenait pour ne pas lui répondre, l'appeler la veuve Mornas, mais c'était encore trop tôt. Le lendemain, par exemple, en s'installant devant un bon déjeuner, pendant que Paola s'impatientait et s'inquiétait à la fin de ne pas voir arriver son homme, ce fut avec une certaine satisfaction qu'il tira sa montre et dit solennellement « Midi, c'est fait. » « Quoi donc ? Il est marié. » Qui ? Ben Courbevez. V'lan ! Oh, mon ami, quelle gifle ! Dans toutes mes aventures galantes, je n'ai jamais rien reçu de pareil. Et tout de suite, la voilà qui veut partir. Mais pas de train avant 4 heures. Et pendant ce temps-là, l'infidèle brûlait les rails du PLM vers l'Italie avec sa femme. Alors dans sa rage, elle repique, m'abîme des coups, elle me griffe. Ah, oh, cette chance, moi qui nous avais enfermés à clé. Puis elle s'en prend à la vaisselle et tombe enfin dans une crise de nerfs épouvantable. À 5, on la porte sur son lit, on la maintient, tandis que tout est raflé, comme si je sortais d'un buisson de ronces, je cours pour trouver le médecin d'Orsay. Dans ces affaires-là, c'est comme sur le terrain, il faudrait toujours avoir un médecin avec soi. Me vois-tu par les routes en jeun et en soleil? Il faisait nuit quand je le ramenais. Tout à coup, en approchant de l'auberge, une rumeur de foule, un rassemblement sous les fenêtres. Oh, mon Dieu, elle s'est suicidée! Elle a tué quelqu'un! Oh, avec la mornasse, c'était plus vraisemblable. Je me précipite et qu'est-ce que je vois? Le balcon chargé de lanternes vénitiennes et la chanteuse debout, consolée et superbe, enroulé dans un des drapeaux et gueulant la Marseillaise en pleine fête impériale au-dessus du peuple qui acclamait. Et voilà, mon petit, comment s'est terminée la liaison des Courbebesse. Je ne te dirai pas que tout a été fini d'une fois. Après 10 ans de fer, il faut toujours compter un peu de surveillance. Mais enfin, le plus fort s'est dépassé sur moi et je recevrai bien autant de la tienne, si tu veux. Ah, bon, non, non, mon oncle n'est pas le même genre de femme. Va donc, dit Césaire décachetant une boîte de cigares qu'il approchait de son oreille pour s'assurer s'ils étaient secs. Tu n'es pas le premier qui la quitte. C'est pourtant vrai. Et Jean se rattrapait avec bonheur à ce mot qui lui navrait quelques mois auparavant. Au fond, l'oncle et son histoire comique le rassuraient un peu. Mais ce qu'il n'admettait pas, c'était le mensonge en partie double pendant des mois. Cette hypocrisie, ce partage, il ne pourrait jamais s'y résoudre et n'avait que trop attendu. Alors, comment veux-tu faire ? Pendant que le jeune homme se débattait dans ses incertitudes, le membre du conseil de vigilance lissait sa barbe, essayait des sourires, des effets, des ports de tête, puis d'un air négligent. C'est loin d'ici qu'il demeure. Qui donc ? Mais cet artiste, ce caudal dont tu m'as parlé pour mon buste, on pourrait aller voir ses prix pendant qu'on est ensemble. Caudal, bien que célèbre grand mangeur d'argent, occupait toujours une assasse l'atelier de ses premiers succès. Césaire, tout en allant, s'informait de sa valeur artistique. Il y mettrait le prix, certainement, mais ces messieurs du comité tenaient à une œuvre de premier ordre. « Oh, ne craignez rien, mon oncle, si Caudal veut bien s'en charger. » Et il lui énumérait les titres du sculpteur, membre de l'Institut, commandeur de la Légion d'honneur et d'une foule d'ordres étrangers. Le Fénat ouvrait de grands yeux. « Et vous êtes amis ?»« Très amis. »« Ce pari, pas moins, comme on y fait de belles connaissances. » Gossin aurait eu pourtant quelque honte à avouer que Caudal était un ancien amant de Fanny et qu'elle les avait mis en relation. Mais on eût dit que Césaire y pensait. C'est lui l'auteur de cette Sapho que nous avons à Castellet. Alors il connaît ta maîtresse. Il pourrait aider peut-être à la rupture. L'Institut, la Légion d'honneur, s'impressionne toujours une femme. Jean ne répondit pas, songeant aussi peut-être à utiliser l'influence du premier amant. Et l'oncle continuait d'un bon rire. À propos, tu sais, le bronze, il n'est plus chez ton père. Quand Divonne a su, enfin, quand j'ai eu le malheur de lui dire que ça représentait ta maîtresse, oh, elle a plus voulu qu'il fût là. Avec les manies du consul, ses difficultés au bras, le changement, c'était pas commode, surtout sans laisser soupçonner le motif. Oh, les femmes! Mais elle a si bien manœuvré qu'à 7 heures, monsieur Thiers préside sur la cheminée de ton père. Et la pauvre Sapho se ronge de poussière dans la chambre du vent avec les vieux chenets et les meubles hors d'usage. Même qu'elle a reçu un atout dans le transport, le chignon cassé et sa lyre qui ne tient plus. La rancune de Divonne, sans doute, qui lui a rapporté malheur. Ils arrivèrent rue d'Assas. Devant l'aspect modeste des travailleurs de cette cité d'artistes, ces ateliers aux portes de remise numérotées, souvent de chaque côté d'une longue cour que terminent les bâtiments vulgaires d'une école communale aux perpétuelles mélopées de lecture, le président des submersionnistes eut de nouveaux doutes sur le talent d'un homme aussi médiocrement logé. Mais, sitôt entré chez Caudal, il sut à quoi s'en tenir. Non, pas pour 100 000 francs, pas pour 1 million, hurlait le sculpteur au premier mot de Gossin. Et soulevant à mesure son grand corps du divan où il s'allongeait dans le désordre et l'abandon de l'atelier, un buste, ah oh bien oui, mais regardez donc là-bas cet écrasement de plâtre en 1000 miettes, ma figure du prochain salon que je viens de démolir à coups de maillet. Voilà le cas que j'en fais de la sculpture. Et si tentante que soit la binette du monsieur. Oh, Gossin d'Armandie, président. L'oncle rassemblait tous ses titres, mais il y en avait trop. Calouda l'interrompit et tournait vers le jeune homme. Vous me regardez, Gossin, vous me trouvez vieilli? C'est vrai qu'il avait bien son âge dans ce jour tombé d'en haut sur les balafres, les creux et meurtrissures de sa tête nerveuse et surmenée, sa crinière de lion montrant des râpes de vieux tapis, ses bajoues pendantes et flasques et sa moustache au ton de métal dédoré, qui ne se donnait plus la peine de friser ni de teindre. À quoi bon? Cousinard, le petit modèle, venait de partir. Oui, mon cher, avec mon bouleur, un sauvage, une brute, mais 20 ans. L'intonation rageuse et ironique, il arpentait l'atelier, bousculant d'un coup de botte l'escabeau qui le gênait au passage. Tout à coup, arrêté devant le miroir enguirlandé de cuivre au-dessus du divan, il se regardait avec une affreuse grimace. « Suis-je assez laid, assez démoli? En voilà des cordes, des fanons de vieilles vaches. » Il prenait son cou à poignée, puis dans un accent lamentable et comique, une prévoyance de vieux beaux qui se pleurent. « Et dire que je regretterai ça l'an prochain. » L'oncle restait effaré. Cet académicien qui se tirait la langue racontait ses basses amours. Ben, il y avait donc des toqués partout, même à l'Institut, et son admiration pour le grand homme s'amoindrissait de la sympathie qu'il ressentait pour ses faiblesses. « Comment va Fanny? Êtes-vous toujours à Chaville ?» fit Caoudal subitement apaisé et venant s'asseoir à côté de Gossin, dont il tapotait familièrement l'épaule. Oh, la pauvre Fanny, nous n'avons plus longtemps à vivre ensemble. Vous partez? Oui, bientôt, et je me marie avant. Il faut que je la quitte. Le sculpteur eut un rire féroce. Bravo, je suis content. Venge-nous, mon petit, venge-nous de ces coquines-là. Lâche-les, trompe-les. Et qu'elles pleurent, les misérables! Tu leur feras jamais autant de mal qu'ils en ont fait aux autres. L'oncle Césaire triomphait. Tu vois, monsieur ne prend pas les choses aussi tragiques comment que toi. Comprenez-vous cet innocent? Ce qui le retient de s'en aller, c'est la peur qu'elle se tue. Jean avoua très simplement l'impression que lui avait faite le suicide d'Alice Doré. « Mais ce n'est pas la même chose !» dit Caoudal vivement. « Celle-là, c'était une triste, une molle aux mains tombantes, une pauvre poupée qui manquait de son. Deschelettes a eu tort de croire qu'elle mourrait pour lui. Mais suicide par fatigue et ennui de vivre. Tandis que sa faute, ah oui, se tuer. Elle aime bien trop l'amour et brûlera jusqu'au bout, jusqu'au bobèche. Elle est de la race des jeunes premiers qui changent jamais de rôle et finissent sans dents, sans cils dans leur peau de jeune premier. Regardez-moi donc, est-ce que je me tue? J'ai beau avoir du chagrin, je sais bien que celle-là partie, j'en prendrai une autre qui m'en faudra toujours. Votre maîtresse fera comme moi, comme elle a déjà fait. C'est bon, on est plus jeune et ce sera plus difficile. » L'oncle continuait à triompher. « Te voilà rassuré, hein ? Jean ne disait rien, mais ses scrupules étaient vaincus et sa résolution bien prise. Ils partaient quand le sculpteur les rappela pour leur montrer une photographie ramassée sur la poussière de sa table et qu'il essuyait d'un revers de manche. Tenez, la voilà. Est-elle jolie, la coquine, à se mettre à genoux devant. Oh, ces jambes, cette gorge. Et c'était terrible, le contraste de ses yeux ardents, de cette voix passionnée, avec le tremblement sénile des gros doigts en spatule, où grelottait l'image souriante au charme capitonné de fossette de Cousinard, le petit modèle. Chapitre 12. Ah, c'est toi, comme tu viens de bonne heure. Elle arrivait du fond du jardin, sa robe pleine de pommes tombées, et montait le perron très vite, un peu inquiète, de la mine à la fois gênée et volontaire de son amant. Qu'y a-t-il donc? Rien, rien, c'est ce temps, ce soleil. J'ai voulu profiter du dernier beau jour pour faire un tour en forêt, nous deux, veux-tu? Elle eut son cri d'enfant de la rue qui lui revenait chaque fois qu'elle était contente. Oh, veine! Plus d'un mois qu'il n'était sorti, bloqué par les pluies, les bourrasques de novembre. On ne s'amusait pas toujours à la campagne, autant vivre dans l'arche avec les bestiaux de Noé. Elle avait quelques recommandations à faire à la cuisine à cause des Théma qui venaient dîner. Et pendant qu'il l'attendait dehors, sur le pavé des gardes, Jean regardait la petite maison réchauffée de cette douce lumière d'arrière-été, la rue de campagne au large dalles moussues, avec cet adieu de nos yeux, étreignant et doué de mémoire aux endroits que nous allons quitter. La fenêtre de la salle, grande ouverte, laissait échapper les vocalises du loriot, alternant avec les ordres de Fanny à la femme de service. « Surtout n'oubliez pas pour 6h30, vous servirez d'abord la pintade. Ah, que je vous donne du linge !» Sa voix sonnait claire, heureuse, parmi les grésillements de cuisine et les petits cris de l'oiseau s'égosillant au soleil. Et lui, qui savait que leur ménage n'avait plus que 2 heures à vivre, ses préparatifs de fête lui serraient le cœur. Il eut envie de rentrer, de tout lui dire, là, d'un coup. Mais il eut peur de ses cris, de la scène épouvantable que le voisinage entendrait, d'un scandale à ameuter le haut et le bas chaville. Il savait que, déchaînée, rien ne comptait plus pour elle, et s'en tint à son idée de la conduire en forêt. « Voilà, j'y suis !» Légère, elle prit son bras, l'avertissant de parler bas et de marcher vite, en passant devant chez leurs voisins, dans la crainte qu'Olympe voulût les accompagner et gêner leur bonne partie. Elle ne fut tranquille que le pavé franchi et la voûte du chemin de fer lorsqu'ils eurent tourné à gauche dans le bois. Il faisait un temps doux, rayonnant, un soleil tamisé d'une brume argentée flottante, qui baignait toute l'atmosphère, s'accrochait aux taillis où quelques arbres, entre leurs feuilles dorées, tenant encore, gardaient des nids de pies, des paquets de guivers et de grandes hauteurs. On entendait un cri d'oiseau continu en bruit de lime et ses coups de bec sur le bois qui répondent aux bûcherons dans les coupes. Ils allaient lentement, marquant leurs pas sur la terre, amollie par les pluies de l'automne. Elle avait chaud d'être venue si vite, les joues allumées, les yeux brillants, et elle s'arrêta pour enlever la grande mantille de blonde, un cadeau de Rosa, dont elle s'était garanti la tête en sortant, le reste fragile et coûteux des splendeurs passées. La robe qu'elle portait, une pauvre robe en soie noire, craquée sous les bras, la taille, oh, il la lui connaissait depuis 3 ans. Et quand elle la relevait en passant devant lui à cause de quelques flaques, il voyait les talons de ses bottines qui se tournaient. Comme elle avait pris gaiement cette demi-misère, sans regret ni plainte, occupée de lui, de son bien-être, jamais plus heureuse que lorsqu'elle le frôlait, les deux mains croisées sur son bras. Et Jean se demandait en la regardant toute rajeunie de ce renouveau de soleil et d'amour, quelle poussée de sève il y avait dans une créature pareille, quelle merveilleuse faculté d'oubli et de pardon pour garder tant de gaieté, d'insouciance, après une vie de passion, de traverse et de larmes, tout cela marqué sur son visage, mais s'effaçant au moindre épanouissement de gaieté. C'est un cep, je te dis que c'est un cep. Elle entrait sous bois, enfonçait jusqu'aux genoux dans les feuilles mortes, revenait toute décoiffée, fripée par les ronces, et lui montrait ce petit réseau sur le pied du champignon qui distingue le vrai cep du faux. Tu vois, il a le tulle. Et elle triomphait. Lui n'écoutait pas, distrait, s'interrogeant. Est-ce le moment? Faut-il? Mais le courage lui manquait. Elle riait trop, ou l'endroit n'était pas favorable. Et il l'entraînait toujours plus loin, comme un assassin qui médite son coup. Il allait se décider quand, au tournant d'une allée, quelqu'un apparut et les dérangea, le garde de ce peuplement, Hochecorn, qu'il rencontrait quelquefois. Pauvre diable qui avait successivement perdu, dans la petite maison forestière que l'État lui allouait au bord de l'étang, 2 enfants puis sa femme, et toujours des mêmes fièvres pernicieuses. Dès le premier décès, le médecin déclarait le logement insalubre, trop près de l'eau et de ses émanations. Et malgré les certificats, les apostilles, on l'avait laissé là 2 ans, 3 ans, le temps de voir mourir tous les siens, à l'exception d'une petite fille avec qui il venait enfin de s'installer dans un logis neuf à l'entrée du bois. Hochecorn, face de breton têtu, aux yeux clairs et courageux, au front bru fuyant sous sa casquette d'uniforme, vrai type de fidélité, de superstition à toutes les consignes, avait la bricole de son fusil sur une épaule et sur l'autre la tête endormie de son enfant qu'il portait. « Comment va-t-elle ? » demanda Fanny, souriant à cette fillette de 4 ans, pâlie et diminuée par la fièvre, qui s'éveillait, ouvrait de grands yeux, cerclés de roses. Le garde soupira. « Oh, pas bien. J'ai beau l'amener partout avec moi, vois qu'elle mange plus, qu'elle a de goût à rien. Faut croire que c'était trop tard quand on a changé d'air et qu'elle a déjà pris le mal. » Elle est si légère, voyez, madame, on dirait une feuille. Un de ces jours, elle m'affiche le cran comme les autres, bon Dieu. Ce bon Dieu, tout bas dans la moustache, c'était toute sa révolte contre la cruauté des bureaux et des paperassiers. Mais elle tremble, on dirait qu'elle a froid. C'est la fièvre, madame. Attendez, nous allons la réchauffer. Elle prit la mantille qui pendait sur son bras. On entoura la petite. « Si, si, laissez donc, ce sera son voile de mariée plus tard. » Le père eut un sourire navré et remuant la menotte de l'enfant qui se rendormait, blême dans tout ce blanc comme une petite morte. Il lui faisait dire merci à la dame, puis s'éloigner avec un « bon Dieu » perdu dans le craquement des branches sous ses pieds. Fanny n'était plus gaie. Serrée contre lui de toute cette tendresse craintive de la femme que son émotion, tristesse ou joie, rapproche de celui qu'elle aime. Jean se disait « Quelle bonne fille !» mais sans faiblir dans sa décision, si affermissant au contraire, car sur la pente de l'allée où ils entraient, se levait l'image d'Irène, le souvenir du rayonnant sourire, rencontré là et qu'il avait pris tout de suite, avant même qu'il en connût le charme profond, la source intime de douceur intelligente. Il songea qu'il avait attendu jusqu'au dernier moment, que c'était aujourd'hui jeudi. Allons, il le faut. Et visant un rond-point à quelque distance, il se le donna comme dernière limite. Une éclaircie dans une coupe de bois, des arbres couchés au milieu de copeaux, de sanglants débris d'écorce et des fagots, des trous de charbonnage. Un peu plus bas, on voyait l'étang d'où montait une buée blanche, et sur le bord, la petite maison abandonnée, au toit tombant, aux fenêtres cassées, ouvertes, le lazaret des Hochecornes. Après, les bois remontaient vers Vélizy, un grand coteau de toisson rousse, de hautes futaies serrées et tristes. Il s'arrêta brusquement. Si l'on se reposait un peu, ils s'assirent sur une longue charpente jetée à terre, un ancien chêne dont se comptaient les branches aux blessures de la hache. L'endroit était tiède, égayé d'une pâle réverbération lumineuse et d'un parfum de violette perdue. « Comme il fait bon !» dit-elle, alanguie sur son épaule et cherchant la place d'un baiser dans son cou. Il se recula un peu, lui prit la main. Alors, devant l'expression subitement durcie de son visage, elle s'effraya. « Mais quoi donc? Qu'y a-t-il ?»« Une mauvaise nouvelle, ma pauvre amie. Edouin, tu sais, celui qui est parti à ma place. » Il parlait péniblement avec une voix rauque dont le son l'étonnait lui-même, mais qui se raffermissait vers la fin de l'histoire préparée d'avance. Edouin, tombé malade en arrivant à son poste, et lui désigné d'office pour aller le remplacer. Il avait trouvé cela plus facile à dire, moins cruel que la vérité. Elle l'écouta jusqu'au bout, sans l'interrompre, la face d'une pâleur grise, l'œil fixe. « Quand pars-tu ? » demanda-t-elle en retirant sa main. « Mais ce soir, cette nuit ?» Et la voix fausse et dolente, il ajouta « Oh, je compte passer 24 heures à Castellet, puis m'embarquer à Marseille. »« Assez ! Ne mens plus » cria-t-elle dans une explosion farouche qui la mit debout. « Ne mens plus, tu ne sais pas. Mais le vrai, c'est que tu te maries. Il y a assez longtemps que ta famille te travaille. Ils ont tellement peur que je te retienne, que je t'empêche d'aller chercher le typhus ou la fièvre jaune. Enfin, les voilà satisfaits. La demoiselle a ton goût, il faut croire. Et quand je pense au nœud de cravate que je te faisais le jeudi, étais-je bête, hein ?» Elle riait d'un rire douloureux, atroce, qui tordait sa bouche, montrait l'écart que faisait sur le côté la cassure, toute récente sans doute car il ne l'avait pas vue encore, d'une de ces belles dents nacrées dont elle était si fière. Et cela, cette dent manquante dans cette figure terreuse, creusée, bouleversée, fit à Gossin une peine horrible. « Écoute-moi, dit-il la reprenant, l'asseyant de force contre lui. Eh bien oui, je me marie. Mon père y tenait, tu sais bien. Mais qu'est-ce que cela peut te faire puisque je dois partir ?» Elle se dégagea voulant garder sa colère. « Et c'est pour m'apprendre ça que tu m'as fait faire une lieue à travers bois. Tu t'es dit, au moins on ne l'entendra pas si elle crie. Non, tu vois, pas un éclat, pas une larme. D'abord, j'en ai plein le dos du joli garçon que tu es. Tu peux t'en aller. C'est pas moi qui te ferai revenir. Sauve-toi donc dans les îles avec ta femme, ta petite, comme on dit chez toi. Elle doit être propre, la petite, laide comme un gorille ou alors enceinte à pleine ceinture. Car t'es aussi jobard que ceux qui t'ont choisi. Ah, elle ne se retenait plus, la lancée dans un débordement d'injures, d'infamies, jusqu'à ne pouvoir bégayer à la fin que des mots « lâche, menteur, lâche !» sous son nez, en provocation, comme on montre le poing. C'était au tour de Jean de l'écouter sans rien dire, sans aucun effort pour l'arrêter. Il l'aimait mieux ainsi, insultante, ignoble, la vraie fille du père Legrand. La séparation serait moins cruelle. En eut-elle conscience? Mais elle se tut tout à coup, tomba, la tête et le buste en avant dans les genoux de son amant, avec un grand sanglot qui la secouait toute, et d'où sortait une plainte entrecoupée. « Pardon, grâce, je t'aime, je n'ai que toi. Mon amour, ma vie, ne fais pas ça, ne me laisse pas. Qu'est-ce que tu veux que je devienne ?» L'émotion le gagnait. Oh, voilà ce qu'il avait redouté. Les larmes montaient d'elle à lui, et il renversait la tête en arrière pour les garder dans ses yeux débordants, essayant de l'apaiser par des mots bêtes, et toujours cet argument raisonnable. « Mais puisque je devais partir !» Elle se redressa, avec ce cri qui dévoilait tout son espoir. « Et tu ne seras pas parti. Je t'aurais dit, attends, laisse-moi aimer encore. Crois-tu que cela se retrouve deux fois, d'être aimé comme je t'aime? Tu as le temps de te marier, tu es si jeune. Moi, bientôt, je serai fini, je ne pourrai plus, alors nous nous quitterons naturellement. » Il voulut se lever, il eut ce courage, et de lui dire que tout ce qu'elle faisait était inutile. Mais s'accrochant à lui, se traînant agenouillée dans la boue restée à ce creux de vallon, elle le forçait de reprendre sa place. Et devant lui, dans ses jambes, avec le souffle de ses lèvres, la voluptueuse étreinte de ses yeux et des caresses enfantines, les mains à plat sur cette figure qui se raidissait, les doigts dans ses cheveux, dans sa bouche, elle essayait de tisonner les cendres froides de leur amour, lui redisait tout bas les délices passés, les réveils sans force, l'enlacement anéanti de leurs après-midi du dimanche. Tout cela n'était rien auprès de ce qu'elle lui donnerait encore. Elle savait d'autres baisers, d'autres ivresses, elle en inventerait pour lui. Et pendant qu'elle lui chuchotait de ces mots, comme les hommes en entendent à la porte des bouges, elle avait de grosses larmes ruisselant sur une expression d'agonie et de terreur, se débattait, criait d'une voix de rêve. « Oh, que ce ne soit pas, dis que ce n'est pas vrai que tu me quittes !» Et des sanglots encore, des gémissements, des appels au secours, comme si elle lui voyait un couteau dans les mains. Le bourreau n'était guère plus vaillant que la victime. Sa colère, il ne la craignait pas plus que ses caresses, mais il restait sans défense contre ce désespoir, cette bramée qui remplissait le bois, allait s'éteindre sur l'eau morte et fiévreuse où descendait un triste soleil rouge. Il pensait bien s'ouvrir, mais pas à cette acuité. Et il lui fallait tout l'éblouissement du nouvel amour pour résister à la relevée des deux mains et lui dire « Non, je reste, tais-toi, je reste. » Depuis combien de temps s'épuisaient-ils ainsi tous les deux? Le soleil n'était plus qu'une barre toujours plus étroite au couchant. L'étang se teignait d'un gris d'ardoise et l'on lui dit que sa vapeur malsaine envahissait la lande et le bois, les coteaux en face. Dans l'ombre qui les gagnait, il ne voyait plus que cette figure pâle levée vers lui, cette bouche ouverte clamant d'une intérissable plainte. Un peu après, la nuit venue, les cris s'apaisèrent. Maintenant, c'était un bruit de larmes à flots sans fin, une de ces longues pluies installées sur le grand fracas de l'orage et de temps en temps un « oh » profond et sourd, comme devant quelque chose d'horrible qu'elle chassait et revoyait toujours. Puis plus rien. C'est fini. La bête est morte. Une bise froide se lève, froisse les branches, apportant l'écho d'une heure lointaine. Allons, viens, ne reste pas là. Il la soulève doucement, la sent molle dans ses mains, obéissante comme un enfant et convulsionnée de gros soupirs. Il semble qu'elle garde une peur, un respect de l'homme qui vient de se montrer si fort. Elle marche à côté de lui, de son pas, mais timidement, sans lui donner le bras. Et aller voir ainsi, chancelants et mornes, par les allées où les guide le reflet jaune du terrain, on dirait un couple de paysans qui rentre harassé d'une longue fatigue en plein air. À la lisière, une lueur apparaît, la porte ouverte d'auche-corne éclairant la silhouette arrêtée de deux hommes. « Est-ce vous, Gossin ?» demande la voix de Théma, qui s'approche avec le garde. Il commençait à être inquiet de ne pas les voir revenir et de ces gémissements qu'on entendait à travers bois. Hochecorne allait prendre son fusil, se mettre à leur recherche. « Bonsoir, monsieur, madame. Oh, c'est la petite qui est contente de son châle. A fallu que je la couche avec. » Leur dernière action en commun, cette charité de tout à l'heure, leurs mains une dernière fois liées autour de ce petit corps moribond. Adieu, adieu, père Hochecorne. Ils se hâtent tous trois vers la maison, Athéma, toujours très intrigué de ces clameurs qui remplissaient le bois. Mais sa bonté, descendait, on aurait dû une bête qu'on égorge. Mais comment n'avez-vous rien entendu? Ni l'un ni l'autre ne répondent. Au coin du pavé des gardes, Jean hésite. « Reste dîner, » lui dit-elle tout bas, suppliante. « Ton train est passé, tu prendras celui de 9 heures. » Il rentre avec eux. Que peut-il craindre? On ne recommence pas 2 fois une scène pareille. Et c'est bien le moins qui lui donne cette petite consolation. La salle est chaude, la lampe éclaire bien, et le bruit de leurs pas dans la traverse a prévenu la servante qui apporte la soupe sur la table. « Enfin vous voilà !» dit Olympe déjà installée, la serviette remontée sous ses bras courts. Elle découvre la soupière et s'arrête tout à coup avec un cri. « Mon Dieu, ma chère !» Ave, de 10 ans plus vieille, les paupières gonflées et sanglantes, de la boue sur sa robe jusque dans ses cheveux, le désordre effaré d'une pierreuse qui sort d'une chasse de police, c'est Fanny. Elle respire un moment, ses pauvres yeux brûlés clignotent à la lumière et peu à peu la chaleur de la petite maison, cette table gaiement servie, provoque le souvenir des bons jours, un nouveau rappel de larmes, où se distinguent ces mots « Il me quitte, il se marie ». Et Théma, sa femme, la paysanne qui les sert, se regarde. Regarde Gossin. « Enfin, dis-donc toujours, dit le gros homme au consent furieux, et le bruit des cuillerées voraces se mêle à un ruissellement d'eau dans la chambre voisine, où Fanny est en train d'éponger son visage. Quand elle revient, toute bleuie de poudre, en blanc peignoir de laine, Léa l'épie avec angoisse, s'attendant à quelque nouvelle explosion, et sont très étonnés de la voir, sans un mot, se jeter sur les plats gloutonnement comme un naufragé, combler le creusement de son chagrin et le gouffre de ses cris de tout ce qu'elle trouve à porter, le pain, les choux, une aile de pintade, des pommes, elle mange. On cause d'abord d'un air contraint, puis plus librement, et comme avec les thémas, ce n'est que de choses bien plates et matérielles, la façon d'accommoder les crêpes aux confitures, ou si le crin vaut mieux que la plume pour dormir, on arrive sans encombre au café, que le gros ménage agrémente d'un petit caramel savouré lentement, les coudes sur la table. C'est plaisir de voir le bon regard confiant et tranquille qu'échangent ces lourds compagnons de crèche et de litière. Ils n'ont pas envie de se quitter, ceux-là. Jean surprend ce regard, et dans l'intimité de la salle pleine de souvenirs, d'habitudes tapis à tous les coins, une torpeur de fatigue, de digestion, de bien-être l'envahit. Fanny, qui le surveille, a rapproché doucement sa chaise, coulé ses jambes, glissé son bras sous le sien. « Écoute, dit-il brusquement, 9 heures, vite, adieu, je t'écrirai. » Il est debout, dehors, la rue franchie, tâte dans l'ombre pour ouvrir la barrière du passage. Deux bras l'étreignent à plein corps. « Embrasse-moi au moins. » Il se sent pris sous le peignoir ouvert où elle est nue, pénétré de cette odeur, de cette chaleur de chair de femme, bouleversé de ce baiser d'adieu qui lui laisse dans la bouche un goût de fièvre et de larmes, et elle, tout bas, le sentant faible. « Encore une nuit, plus qu'une. » Un signal sur la voie, c'est le train. Comment eut-il la force de se dégager et de bondir jusqu'à la gare, dont les fanaux luisaient à travers les branches des feuillets ? Il s'en étonnait encore. Tout haletant dans un coin de wagon, guettant par la portière les fenêtres allumées de la maisonnette, une forme blanche contre la barrière. Adieu, adieu. Et ce cri rassurait la terreur silencieuse qu'il venait d'avoir à ce tourment des rails, en apercevant sa maîtresse à la place occupée par son rêve de mort. La tête dehors, il voyait fuir et diminuer, rouler dans le pelotement des terrains leur petit pavillon dont la lueur n'était plus qu'une étoile égarée. Tout à coup, il sentit une joie, un soulagement énorme. Comment on respirait, que c'était beau toute cette vallée de Meudon et ces grands coteaux noirs dégageant au loin un triangle étincelant d'innombrables lumières égrenées vers la Seine en cordons réguliers. Irène l'attendait là, et il allait à elle de toute la vitesse du train, de tout son désir d'amoureux, de tout son élan vers l'honnête et jeune vie. Paris. Oh, il arrêtait une voiture pour se faire conduire place Vendôme. Mais sous le gaz, il aperçut ses vêtements, ses souliers couverts de boue, une boue lourde, épaisse, tout son passé qui le tenait encore pesamment et salement. Oh non, pas ce soir. Et il rentra à son ancien hôtel rue Jacob, où le Fénat lui avait retenu une chambre près de la sienne.